Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Il nous arrive parfois de laisser la parole à des invités pour qu'ils nous parlent de leur cheminement spirituel.
Sans tarder davantage, nous allons céder la parole à un nouvel invité pour qu'il puisse se présenter.
Mon nom c'est Luis, j'ai 68 ans bientôt, je suis né au Portugal. J'ai eu le privilège de connaître le Seigneur Jésus à l'âge de 7 ans par des missionnaires anglais qui sont venus ouvrir une église évangélique dans une ville qui s'appelle Covilhã, au Portugal. Mon père s'est converti et j'ai fréquenté l'école du dimanche avec mes deux frères et c'est ainsi que j'ai connu le Seigneur.
Luis a donc entendu parler de Jésus à l'école du dimanche. Cependant, as-tu compris de la bonne nouvelle tout de suite? À présent, il nous raconte la suite de son cheminement spirituel.
Je pensais que quand mon père était sauvé, que moi aussi j'étais sauvé, puisque j'allais à l'église, à l'école du dimanche, au culte, j'assistais. Et puis, j'ai compris plus tard que Dieu n'avait pas des petits-enfants, qu'il n'avait que des enfants. Donc c'est à l'âge de 13 ans, 14 ans que j'ai accepté Jésus dans mon cœur et que je l'ai reconnu comme mon sauveur. J'ai été baptisé dans les eaux du baptême, dans une rivière là-bas au Portugal. Et j'ai été baptisé en 1963, donc j'avais 15 ans. Et depuis, je chemine avec le Seigneur.
C'est une erreur assez fréquente de penser que l'on est chrétien du fait de son appartenance à une famille, une nation ou une église. Alors qu'en fait, la bonne nouvelle de Jésus-Christ exige de chacun une réponse personnelle, une démarche de foi et de repentance. À présent, Luis nous décrit la situation spirituelle au Portugal à cette époque-là.
Le Portugal était à cette époque-là à 99,99% catholique de nom, donc c'était très difficile d'être appelé de protestant, évangélique. Donc c'était très très difficile, tout le monde se moquait, on était, j'allais dire, persécuté, pas forcément avec des coups de bâton, mais en parole. Mais Dieu nous a gardés dans la foi.
Lui, c'était donc un jeune chrétien évoluant dans un climat où l'on pouvait mépriser sa foi et se moquer de ses convictions. Comment a-t-il vécu cela?
Non, c'était pas évident du tout, parce qu'il fallait être séparé de par rapport aux autres. Hein. Encore que jusqu'à l'âge de 13-14 ans, je fréquentais l'église, mais je n'étais pas vraiment sauvé. Donc finalement, vis-à-vis des autres, il n'y avait pas une grande différence. J'étais un garçon très actif, quelquefois un petit peu révolté, mais bon, Dieu m'a gardé, et donc quand je l'ai accepté comme mon sauveur, ça a changé complètement ma vie, donc entièrement.
À présent, Luis va évoquer la situation économique au Portugal à cette époque-là. Et nous expliquer comment la foi de sa famille leur a permis de mieux s'en sortir.
Alors, au Portugal, j'étais l'aîné d'une famille de trois garçons. Et on vivait pas trop mal, nous, au Portugal, donc avec mon père. Mon père travaillait beaucoup, il était peintre en bâtiment là-bas. Mais un peintre là-bas, il faisait beaucoup de travaux. Mais quand il s'est converti, il a arrêté de fumer. Pas parce qu'on l'a obligé, mais parce qu'il a senti que c'était pas bon et ça dépensait de l'argent. Donc la vie qu'on avait à la maison, c'était une vie qui était bonne par rapport à beaucoup de Portugais qui vivaient difficilement. On disait à l'époque que si tu voulais avoir un frigidaire, il fallait aller chez les protestants. Et les gens se moquaient en disant « va chez les protestants, tu vas avoir un frigidaire ». Et en fait, c'est pas ça du tout, c'est parce que les gens qui se convertissaient avaient une vie totalement changée. Ils ne buvaient plus de vin dans les tavernes, dans les bistrots, ils ne fumaient plus, ils n'allaient plus à des endroits où ils dépensaient leur argent, et avec cet argent-là, ça leur permettait d'acheter des frigidaires, ça leur permettait d'avoir une vie meilleure.
Ce que dit Luis est intéressant, et il faut le souligner. Jésus ne promet pas à ses disciples une vie matérielle abondante et riche. Toutefois, une certaine amélioration de notre qualité de vie peut être la conséquence de notre vie de disciple. Comme l'explique Luis, un chrétien aura le souci de mieux gérer son argent et il ne le gaspillera plus dans des activités débauchées ou frivoles. Il pourra ainsi mieux épargner, prendre davantage soin de sa famille et même venir au secours des nécessiteux. À présent, Luis va évoquer la situation politique au Portugal dans les années 60 et il va nous parler de la décision importante qu'il envisageait de prendre.
Comme le service militaire était très long au Portugal, donc 4 ans, j'avais envisagé de venir en France clandestinement, comme beaucoup de Portugais avaient l'habitude de faire, donc, mais des Portugais, des hommes déjà adultes, alors que moi c'était surtout pour me sauver du service militaire, qui était de 4 ans. Il y avait la guerre en Angola, la guerre en Mozambique, la guerre en Guinée-Bissau, Timor, les Indes, dans les colonies portugaises. Donc j'avais projeté de venir en France clandestinement. C'était surtout par peur, parce que les jeunes qui venaient de la guerre, quelques-uns n'avaient plus un bras, d'autres avaient perdu une jambe. J'ai un cousin qui s'était marié, et quand il est revenu de la guerre, pendant la nuit, il s'asseyait encore dans son lit à minuit, à 1h du matin, et il pensait avoir une mitraillette, et il se mettait... pensait avoir la mitraillette encore dans les mains, donc c'était dans la tête que ça n'allait pas. Et j'ai eu peur que ça m'arrive la même chose, et j'ai dit « je m'en vais en France pour échapper à la guerre ».
En quoi consistaient exactement les projets de Luis? Et comment son père a-t-il réagi en apprenant ce que son fils pensait faire? Luis va nous expliquer cela en détail.
Donc j'avais projeté avec des jeunes de mon âge, j'avais 16 ans, j'avais projeté de venir clandestinement en bâtissant un programme de mensonges en disant qu'on avait une carte d'étudiant du lycée. Et on avait bâti un programme en disant que si on se faisait prendre par la police, on répondrait qu'on s'était perdu du groupe avec lequel on était en voyage d'études du lycée et qu'on décidait de retrouver le groupe le lendemain dans une ville, mais qui serait au nord. On disait toujours la ville qui était plus au nord, de façon à pouvoir arriver jusqu'en France. Et quand j'ai dit ça à mon père, il m'a dit « Non, non, tu ne vas pas, nous sommes chrétiens, on va faire les choses régulièrement. J'irai moi-même officiellement avec des papiers et puis ensuite, je viendrai chercher toute la famille et nous irons avec des papiers officiels. » Mon père, étant converti, il a dit « C'est pas normal qu'un fils de Dieu fasse des choses qui ne sont pas selon les règles du pays, les lois du pays. » Donc, il a obtenu un passeport pour un contrat de travail d'un an. Et il est venu 6 mois. Au bout de 6 mois, il est venu nous chercher au Portugal. Il a fait les papiers auprès de l'Office national d'immigration. Et nous avons eu les passeports, moi, ma mère, mes 3 frères, et nous sommes venus en France.
C'est ainsi que le jeune Luis a appris une belle leçon d'intégrité. Nous pouvons admirer la démarche entreprise par son père, qui montre à la fois son désir de rester honnête et son amour pour ses fils, car il est prêt à tout quitter pour les sauver des ravages de la guerre.
Nous remercions Luis pour sa participation à notre émission. Il sera de retour la prochaine fois pour nous parler de son installation en France et de la fidélité de Dieu. Nous apprendrons également en quoi cette leçon d'intégrité lui a été utile bien plus tard dans sa vie, lorsqu'il a été confronté sur son lieu de travail à la corruption.
Je voudrais à présent revenir sur la question de l'immigration clandestine. Nous pouvons comprendre les tristes réalités qui poussent les gens à vouloir quitter leur pays pour chercher une vie meilleure ailleurs. Oui, il est normal de vouloir fuir la guerre et l'insécurité, l'oppression et la pauvreté. Cependant, je voudrais rappeler à ceux qui tentent d'arriver en Europe par les filières clandestines les dangers qui existent. Les routes prises sont très dangereuses, elles sont jalonnées de trafiquants malhonnêtes qui sont sans scrupules. De nombreuses personnes meurent lors de ces voyages. D'autres arrivent en Europe très endettés, et ils ne trouvent pas forcément de travail pour rembourser leurs créditeurs. Dépourvus de tout, les immigrants clandestins deviennent vulnérables. Les trafiquants peuvent les exploiter, obligeant certains à se prostituer, à d'autres à travailler sans salaire pour des entreprises illégales. Les immigrants clandestins ont beaucoup de mal à régulariser leur situation. Ils connaissent la pauvreté et l'insécurité. Et nombreux sont sans abri. Ils risquent les contrôles policiers, la détention et la déportation. Cependant, pour le chrétien, il faut tenir compte d'autres considérations. Comme l'a expliqué le père de Luis, il faut respecter les lois mises en place par les pays. Il faut se soumettre à l'État. C'est l'enseignement du Nouveau Testament. Écoutons deux extraits.
Que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et celles qui existent ont été mises en place par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu. Et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le châtiment qu'ils se seront attirés. Car ce sont les malfaiteurs, et non ceux qui pratiquent le bien, qui ont à redouter les magistrats. Tu ne veux pas avoir peur de l'autorité ? Fais le bien, et l'autorité t'approuvera. Car l'autorité est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, redoute-la. Car ce n'est pas pour rien qu'elle peut punir de mort. Elle est en effet au service de Dieu pour manifester sa colère et punir celui qui fait le mal. C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre à l'autorité, non seulement par peur de la punition, mais surtout par motif de conscience.
Nous venons d'écouter la lettre de Paul aux Romains au chapitre 13, les versets 1 à 5. À présent, nous allons écouter l'enseignement de l'apôtre Pierre, donné dans sa première lettre, au chapitre 2, les versets 13 à 17.
Pour l'amour du Seigneur, soumettez-vous à vos semblables, qui sont des créatures de Dieu, au roi qui détient le pouvoir suprême, comme à des gouverneurs chargés de punir les malfaiteurs et d'approuver les gens honnêtes. Car voici ce que Dieu veut, c'est qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence toutes les calomnies portées contre vous par les insensés, les ignorants. Vous agirez ainsi en homme libre, sans faire pour autant de votre liberté un voile pour couvrir une mauvaise conduite, car vous êtes des serviteurs de Dieu. Témoignez à tout homme le respect auquel il a droit. Aimez vos frères en la foi et révérez Dieu. Respectez le roi.
Ainsi, le Nouveau Testament enseigne qu'il faut rester intègre devant l'État et toute autorité humaine. L'empereur romain, ainsi que tous les rois et gouverneurs qui agissaient en son nom, se montraient souvent injustes et parfois cruels, tout comme peuvent l'être les personnes qui détiennent le pouvoir aujourd'hui dans certains pays. Et pourtant, Paul et Pierre conseillent aux croyants de respecter les règles mises en place par l'État et de se soumettre aux autorités. Il s'agit d'un bon témoignage d'intégrité et de confiance en Dieu.
Merci Yann pour ce rappel important. Louis sera de retour la prochaine fois pour nous parler de la suite de son parcours spirituel. En attendant de vous retrouver bientôt, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.